Putain de maréchal, Michel Boutet. Sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez Trou Noir et nous retournons tout de suite avec Jean-Claude.
Après, ils vivent là-bas, il y a des petits villages avec des meshtas qu'ils appellent des petites maisons, tu sais, parce que il y a beaucoup de soleil, donc il y a juste une porte, il n'y a pas de fenêtre, il fait trop chaud, quoi. Je comprends pourquoi c'est construit comme ça, hein. Sans d'autre solution. Ou alors, ils vivent dans des raïmas, là, des tentes. Alors là, c'est des nomades, tu vois, ils ont des dromadaires, ils ont des moutons, ils ont des bestioles comme ça. Et ça, jusqu'à peu près la fin de l'année, quoi, jusqu'à la Noël, si tu veux, de l'année... 59.
Noël 59.
Voilà, de l'année 59, ouais. On visite ces trucs. Mais avec des comportements de saligots, quoi, pour ainsi dire, hein, parce que on déguise, parmi nous, il y a des Algériens, mais des Algériens appelés. Ils sont français, ils ne sont pas Algériens. C'est des Français d'Oran, des villes, qui font leur service militaire pour l'armée française. Hein. Bon. Et là, comme ils sont en Algérie, ils servent c'est bon pour servir d'interprète, ils connaissent la langue, tout ça. Alors on les déguise en fell, quoi, la nuit. Pas compliqué, un treillis, et puis une djellaba. Mais nous, on en a des djellaba. Mais nous, les nôtres sont marron et blanche, donc ça peut paraître drôle. Donc ils les habillent avec une djellaba d'une couleur quelconque, café au lait, ce que tu veux. Et ils sont armés, et ils arrivent à 3 ou 4, et ils rentrent dans les tentes la nuit, ils se font passer pour des félagas. Et ils disent à peu près, parce que je les ai entendus après nous le raconter, mais ils disent à peu près, nous avons franchi la frontière marocaine, qui est assez loin, et nous recherchons tel groupe de fel, quoi. Parce que les groupes, ils ont dû l'avoir par la torture à d'autres prisonniers qui ont été arrêtés, qui ont dit des choses, bon, et ils se servent...
Par recoupement...
Voilà, ouais. Ils se servent de ces choses. Et quand ils tombent sur des gars qui, bien sûr, leur disent « Oui, ils sont passés l'autre jour, et nous, il faut qu'on les rejoigne, où sont-ils » Ah, ils disent, je crois qu'ils savent... En principe, ils ne savent pas où ils sont, mais ils disent ils sont dans le secteur, mais enfin, ils sont là, oui. Tu penses que les fels, ils ne disaient pas on est dans telle grotte, ou on est ici, on est là, ça c'est clair. Mais
on les a croisés sur le chemin, on les a vus.
Oui, non, mais ils sont venus se ravitailler.
Ils sont venus se ravitailler, ouais.
Bon, alors vous leur avez donné, ben oui, on leur a donné un mouton, on leur a donné ci, on leur a donné là. Et après, nous, on arrive par derrière, on les arrête. Et on amène les hommes à la ville, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne le sait pas, on ne le voit pas, nous. Hein. Mais après, on le sait. Après, avec les livres, j'ai compris que ce qui se passait en réalité.
Mais sur place, jamais tu as su...
Si, des tortures sur place.
Ouais.
Si.
Ouais.
Attends, je vais venir, je fais un peu dans l'ordre comment ça s'est passé. Ouais. Alors, tu vois, je crois que parmi tout ce que j'ai vu, c'est ce qui m'a un peu le plus parmi tout ce que j'ai dit, c'est ce qui m'a le plus écœuré, quoi. C'est pas possible de faire ça. Moi, bon, je suis un peu briscoute. J'ai été éclaireur de France. Ça m'a peut-être perturbé là-dessus. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je ne sais pas si les Allemands étaient capables de faire une saloperie pareille. Parce que c'est normal que... Imagine que le gars qui était dans les Raïma, là, le chef de village, ou comme ça, il fait la rive, il dit « Donne-nous des poules, non. » Eh ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ils ne faisaient pas de cadeaux, les autres non plus, ils faisaient l'enfacer à leurs...
À leurs compatriotes.
À leurs compatriotes, ouais. il n'y avait pas à rire, là.
Ouais.
Alors nous, on arrive, on ratisse et on ramasse. Alors tout le monde est là-dedans, il faut le voir, tout le monde est dehors, il crie, les femmes, tout, c'est atroce. Après, on fouille les tentes en question, et on en fouille de plus en plus, là. Parce qu'on en fouille, parce que c'est toujours le refoulement, si tu veux, des troupes FLN, enfin, d'une partie des troupes FLN par la mission, l'opération Châle, qui se sont réfugiés dans cette montagne. Sinon, eux, ils étaient plutôt vers le centre du pays. Parce que là, nous, on est à 600 km d'Oran, à peu près, là. Ouais. C'est 600 km d'Alger, 600 km d'Oran, c'est plutôt... Et il y a des blessés, il y a tout ça, donc il faut des médicaments, il faut des... Alors nous, il faut chercher s'il n'y a pas du mercurochrome. Bon, S'il y avait une petite bouteille, un DRCO, on s'en fout, mais une quantité de pansements, une quantité de... Bon, les munitions, c'est pas la peine, il faut les chercher, mais elles sont pas là. Et s'ils ont des munitions, ils ont caché un peu plus loin, ils sont pas si cons que ça, même les armes. Ils sont pas si fous. Après, on arrête aussi quelques... On intercepte quelques caravanes de Touareg, là. Alors là, c'est pas... C'est plus... On les fouille pas de la même façon, quoi. Ils descendent de leur bagage, on regarde, mais... J'ai l'impression qu'il y a un certain... Certains respects, alors que je pense qu'ils devaient vendre des armes, les Touaregs. Mais leurs armes, ils devaient avoir des caches, ils ne devaient pas aller les chercher en plein jour d'abord. Et puis ça, c'était des caravanes de marchands. Alors ils nous héliportent, tu vois, au bord du désert, les hélicoptères. Quelquefois avec les GMC, on y va avec les camions. Puis on fait ce genre d'opérations qui sont, ça, c'est les plus correctes encore. Et après, on fouille aussi les espèces de mestra, je t'ai dit, les petites maisons qu'ils ont dans les villages. Alors là, c'est des agriculteurs surtout. Alors c'est en principe au bord d'un ruisseau. Il y a des jardins, quoi, des trucs comme ça, ils vivent de l'agriculture. Mais c'est pareil, ils sont en contact avec les fels. Bon, là, on leur a pas fait le coup de... Enfin, moi, je n'ai pas vu faire le coup de fel déguisé pour les trahir. Là, ça, je n'ai pas vu. Mais le comportement, il est le même. Il est très violent pour les faire sortir brusquement, tu vois. Tout est violent. Il n'y a jamais, tu dis à quelqu'un, bon, allez, sortez, donnez vos papiers, là. Et à la limite, s'il s'énerve, il calmez-vous, on regarde vos papiers, puis c'est tout, vous n'allez pas mourir, allez, donnez vos papiers. Vous savez bien qu'il faut... Bon, c'est pas comme ça, hein. Mm-hmm. Si, et quand tu résistes trop, il y en a qui prennent des coups de crosse sur le côté, là. Crosse de fusil, bam, tape, et etc. Et quand on vide tout, ils ont des coffres. C'est pas des armoires, c'est des coffres. Ils attrapent le coffre, ils le vident, ils renversent.
Mais est-ce que le comportement des militaires, il est dû à des ordres?
Oui, au départ, si on te dit qu'il faut fouiller la maison, disons, ouais. Tu la fouilles, faut faire vite. Il faut aller vite. Nous aussi, il faut qu'on fie ça.
Ouais.
Donc, une fouille faite par des soldats, ça ne se fait pas. Tu n'attrapes pas les chemises, tu les mets là, les culottes, tu les mets là, tu braques, ça c'est vrai. Mais là,
Mais il y a en plus, là, il y a la menace, il y a la violence, voilà. Il y a les coups de crosse, il y a des choses comme ça. Et ça, personne n'a demandé aux militaires de le faire.
Non, c'est... On m'a jamais dit, fais-le. J'ai évité de le faire, mais ça ne sert à rien que je dise, j'ai évité. Moi, j'essayais de... Là, j'ai commencé à me faufiler sérieux, tu vois. Et comme souvent, à l'entrée d'une ragma ou à l'entrée de ces maisons, il faut quelqu'un qui monte à la garde.
Ouais.
J'ai essayé chaque fois, et comme il y avait des volontaires pour entrer, parce qu'ils espéraient tous trouver des bagues ou des trucs comme ça, voilà. Trouver de l'or. Je ne sais pas s'il y en a qu'on en trouvait, peut-être qu'il y en a ramassé. Mais si je pouvais prendre le poste le plus facile, je le prenais. Je reste. Avec mon fusil, je regardais au cas où il y en a un qui voulait foutre un coup de couteau, je l'aurais allumé sans problème, c'est vivifère. Mais quand, par exemple, dans le cas de la maison, elle fait combien à l'intérieur, ça fait 5 sur 5, si tu veux. Quand tu as un groupe de femmes, les filles, tu vois, qui se regroupent dans un angle, et que tu leur dis sors, elles ne sortent pas, ça se passe à coup de crosse. Ça, c'est sans problème. Et elles sortent le lendemain, je peux te promettre que les bleus, ça doit. On ne les prend pas, on ne les tire pas, ça frappe, tu cognes. Le fusil, allez, bam, tant que ça peut. Et là, il n'y a pas d'officier pour dire le fais-le ou ne le fais pas. Bon, si, ce qui nous.
Ah, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est la peur aussi qui fait agir comme ça? Parce que les mecs, finalement, on peut se dire qu'ils ont peur. Peut-être qu'en effet, dans cette maison où ils entrent, il y a des armes et qu'on va leur tirer dessus. Est-ce qu'ils ont peur de ça? Ou est-ce que c'est le simple plaisir de la brutalité?
Oui, moi je pense que c'est... Peur, oui, mais comme ça se fait vite, et comme il y a quand même... On arrive, quand on fait un truc comme ça, il y a une section, c'est-à-dire 25 personnes. Hein. Ça peut être 2 sections, 50, etc.
Donc le risque est mince de tomber sur un tireur.
Et il pourrait y avoir quelqu'un qui s'est fait tuer d'un coup de couteau, mais celui qui a fait ça, il est sûr de mourir, et il n'y a pas de problème. Bon, on nous a par exemple jamais dit... ne violez pas. Moi, je te le dis, j'ai jamais vu, dans ma compagnie, j'ai jamais vu quelqu'un violer une femme. Pour la bonne raison, d'abord, qu'on allait très vite, et qu'elles sont habillées en pagaille, que ce n'était pas possible, parce que tu n'avais pas envie, toi. Le gars qui aurait voulu en violer une alors que les copains partaient parce qu'ils avaient vite fait, ils allaient vite à l'autre, ils partaient, il n'avait pas envie de se retrouver isolé en train de, d'essayer de...
Donc en fait, elles ont eu de la chance.
Ouais. Ah oui, je pense qu'ils ont l'intention, que l'intention y était, mais que c'était... J'ai jamais vu. Mais enfin, c'est une... Même ça, de fouiller avec violence comme ça une maison... C'est pas une réaction contre une rébellion, c'est une réaction de guerre épouvantable, c'est la pire des guerres. Si une région se rebelle chez nous, c'est pas moi, les Basques ou ce que tu voudras, même que l'armée aille dans les maisons, elle va pas quand même, j'espère, avoir ce genre de comportement. Effectivement, elle va peut-être fouiller pour chercher des armes, effectivement, les gens vont être arrêtés, enfin, les hommes, certains vont être arrêtés, ils vont amener pour être interrogés, mais on va pas avoir, alors que là... Je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile de perdre de vue que nous, on était dans un département français. Enfin, moi, toujours. Je préfère dire moi, parce que je ne sais pas. Mais je crois que les autres aussi. On était dans un département français. On avait affaire à des Français pour nous. C'est comme si on avait été dans le Massif central, si tu veux, dans une petite ferme. Ou comme chez ma grand-mère, qui avait 2 hectares. Tu sais, c'était une petite maison. C'était... D'abord, je pensais souvent à elle, moi. Je pensais à ma grand-mère qui disait, pas à moi, mais quelquefois, si, elle disait aussi... Quand j'avais 7-8 ans, elle disait, tu vois les Allemands, quand ils viennent chercher des œufs, ils me les payent. Quand c'est les maquis, ils me les volent. Et alors encore, c'était pas pire qu'ils les volent, c'est qu'en plus à certains, les maquis, à Blasimont, auraient mis leur pistolet sur le ventre des gens pour leur piquer les jambons. Tu vois, c'est...
Où est la barbarie? Dans quel camp est la barbarie en temps de guerre, hein?
Voilà, c'est ça que tu... C'est, moi, je crois qu'ils aimaient faire ça, c'est tout. C'est vrai qu'il fallait aller vite et qu'il ne fallait pas se retarder. C'est vrai qu'aussi, là, si, pour couper un peu, je peux te dire qu'il y a beaucoup de vents de sable, par exemple, qu'on se trouvait assez souvent dans les vents de sable, qu'il ne faut pas te trouver à... Enfin, il faut que tu vois le gars qui est devant toi. Alors, quelquefois, c'est 3 mètres. Mais si tu te commences à ne plus le voir, vite te rapprocher pour ne pas le perdre. Si tu le perds, tu es nettoyé. Là, tu retrouves... Bon, la nuit, on marchait aussi, on allait en embuscade. On marchait dans le brouillard, quoi. En fait, c'était un nuage, en fait. En réalité, c'est un nuage, mais c'est le brouillard. Et tu marchais presque à toucher l'autre. Et là, de temps en temps, tu es huilé, quoi. Alors, l'autre savait aussi regarder si tu le suivais. On était un fil indien. Pour aller tendre une embuscade à 7, 8 ou 10 kilomètres. Et il y a des... La peur, comme tu dis, elle était là aussi. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être la peur que quelqu'un te foute un coup de couteau, mais il y avait la peur de se perdre, la peur de perdre les copains là, dans le vent de sable ou dans le nuage. Et je te promets que quand tu commences à presque plus le voir, ça palpite, là. Tu te dis, si je me trouve tout seul là, au milieu... toutes ces angoisses, elles sont perpétuelles. Je pourrais t'en rajouter quand les autres attendent le courrier de chez eux, puis que le courrier n'arrive pas, une foule qui s'ajoute à ça. Alors quand on est en opération, nous aussi, bon, mais ça c'est le fait de toutes les guérillas, qu'on dort, on peut partir 3 jours en opération, c'est-à-dire qu'on dort dehors. Hein. C'est faisable, il fait froid, c'est tout, il faut monter la garde, etc. C'est pas agréable si tu veux, mais enfin, donc, disons que c'est faisable. Que parfois, il arrive, moi ça, je l'ai vu plusieurs fois, qu'une personne, souvent on considère comme un moutonnier ou ce que tu veux, ou un paysan, à une certaine distance, par exemple à 200-300 mètres, on le voit s'échapper, on le tire dessus. Alors c'est... Sans chercher à comprendre. Mais le type, il court pourquoi? Parce qu'il nous a aperçus, il veut vite aller chez lui, dans son village, et dire les Français arrivent. Peut-être pour cacher quelque chose, c'est possible. Mais on ne s'occupe pas, en fait, s'il fait le mal ou tout simplement s'il garde ses moutons. On lui tire dessus. Puis ensuite, si tu veux, vers le début du printemps, traverse l'hiver, comme ça. Alors l'hiver, il fait très très froid. Hein. Moi, à plusieurs reprises, ça m'est arrivé d'être obligé de rester au camp, parce que pour une raison de santé ou qu'il y avait quelque chose à faire. Et quand on sait que les gars, les copains sont en opération et qu'ils vont rentrer, on a des poêles dans la tente. Alors on fait chauffer de l'eau dans des grands bidons. Et il y en a qui arrivent et on est obligé de les déchausser, de quitter leurs chaussettes et tout. Ils ont les pieds violés. Ah ouais. Il faut doucement les frictionner, quoi, tout ça, les organiser. C'est très, très... Il y a un mètre de neige quelquefois là-bas. Alors, il y a aussi cette souffrance qui s'ajoute, mais qui supporte. On la supporte physiquement, mais je veux dire, si il y a des moments, il y a bien quelqu'un qui hurle à qui, j'en ai marre de ce bordel. Alors je ne te dis pas que tous les soldats français étaient comme ça, hein. Mais dans le régiment où j'étais, ils supportaient ça. Et un jour, il y avait des embuscades, il y avait besoin de volontaires pour les embuscades. Il suffisait pour ça d'aller au foyer, il y avait deux ou trois Alsaciens. Et on disait, il y a besoin de volontaires. Alors il disait, oui, moi. Et un jour, il y en avait un, il était tout le temps volontaire. Je lui dis, pourquoi tu es tout le temps volontaire? Il dit, parce que je veux racheter les fautes de mon père. Et il dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que mon père s'est engagé dans l'SS. Alors c'est plus tard que j'ai lu qu'effectivement, au Radour, à Tulle, c'était le régiment SS, c'était un régiment alsacien qui avait été... Bon. Alors apparemment, son père...
aurait été dans cette...
aurait été dans ces trucs. Mmh. Alors, lui dit, j'ai une raison d'être là, je veux racheter la faute de mon père.
Ça, c'est si curieux. Tu veux.
Et je suis volontaire partout. Ça s'appelle malgré nous, malgré moi, ou malgré...
Je sais pas malgré quoi, nous, ouais.
Malgré
ouais.
nous, voilà. Ouais. Alors, les autres Alsaciens, je sais pas.
Et... c'est-à-dire il y avait peut-être les malgré nous, mais il y avait peut-être aussi des gens en effet qui s'étaient engagés dans la LVF par exemple ou des choses comme ça, ouais. Je ne sais pas.
Ouais. Enfin, ouais. Il y a ça, il y a quelques jeunes qui ont 18 ans qui sont engagés. Alors, ils sont engagés dans un commando justement pour un commando de chasse pour faire ça. Et puis après, moi, j'en suis toujours à mon truc de dire, ça me fait marre de cette merde, quoi. Mmh.
Mais t'en es pas encore à...
Je cherche une solution, mais laquelle ?
Et si c'est tout seul, tu pouvais en parler à personne, là.
Mais j'aurais pu, je vois pas. Si j'avais bu une bière avec un copain et lui disant, moi, j'en ai marre, je vais arrêter, je me fais chier ce bordel, il m'aurait pas dénoncé à qui que ce soit. Ah, oui. Je parie même, j'aurais dit au capitaine, pas au capitaine, mais au lieutenant, il m'aurait dit, mon pauvre, je te comprends, mais c'est comme ça, il faut... C'est la France, c'est la patrie, il faut être citoyen, il m'aurait fait la morale, quoi. Il ne m'aurait pas puni. Mmh. Par contre, ce que j'ai jamais fait, que j'aurais dû faire, par exemple, enfin, que je m'en suis voulu plus tard, j'ai d'autres choses que je vais te dire comme ça. Si c'est le gars qui appuie sur les talons, les gens qui appuient sur les plaies, j'aurais dû hurler, merde quand même, j'aurais dû dire, arrêtez, non, ça ne va pas. J'ai rien dit, personne n'a rien dit, c'est contenté de tourner la tête. Alors, comme tu dis, la torture, après, sur place, est-ce qu'elle avait lieu? Ben oui, elle avait lieu, parce que ça est arrivé à plusieurs reprises de prendre quelqu'un qui était dans une zone, d'après eux, interdite, et il s'en va au PC, quoi. Enfin, sinon, dans la compagnie, il y a 100 et quelques hommes, 110, 120, il va au PC. Bon, là, la torture, c'est des coups de poing. Enfin, c'est pas intéressant, parce que si tu revois après, au bout d'un moment, on repart à marcher, tu vois le type, il est en sang. Tu dis, bon, il a pris sa branlée. Parce qu'il a voulu à tout prix lui faire dire, puis tordre les doigts, tordre tout ça, là, c'est le sang, faire ça, tout. Bon, mais ça, tu as la possibilité de ne pas le voir. Il suffit que tu tournes la tête ou tu vas pisser dans un coin, si tu veux. Bon, tu as des possibilités de l'éviter. Mmh. Et puis, mais là, par contre, tu ne t'aurais plus rien dire. Celui qui aurait réagi contre... le lieutenant ou contre qui était en train de le faire, essayer de le faire parler, là, ça aurait renflé.
Non, enfin, ce que tu as vu, à ce moment-là, ça restait dans ce que tu dis qu'il n'y avait pas encore la GIGN, enfin, pas là où tu étais, en tout cas.
Ah non, sur la GIGN, elle est au poste de commandement, si voilà, tu veux. Voilà. À la ville, à Flou.
À la ville, c'était dans la ville qu'ils l'ont utilisé.
Au Crapahu, nous, on ramasse des gens, on cherche des traces.
D'accord.
Quand les traces ont été repérées assez importantes, il y a les paras qui viennent, ou la Légion.
D'accord.
La Légion, souvent. Qui arrive et qui vient aider. Et puis de toute façon, on trouve de moins en moins de fel, mais on ne sait pas pourquoi. Bon, je le dis maintenant, ça n'a pas d'importance. Tout simplement parce qu'ils n'ont pratiquement plus à manger, ils n'ont pratiquement plus d'armes. Mais on n'est pas les seuls à s'en apercevoir. Bien sûr, puisqu'à plusieurs endroits, il y a eu des camps de regroupement organisés. Mais dans ce midi, dans ce sud-là, ça n'avait pas été encore organisé. Donc au printemps, je vais te raconter un peu, quoi. Au printemps, ça va s'organiser. C'est-à-dire qu'on...
Donc là, on est en 60.
En 60, début 60. Le, ils vident, ils appellent ça vider l'eau du poisson, de l'aquarium. Comme ça, le poisson, il... Alors, ils vont rassembler... Les Mechtal, les villages comme ça, ils rassemblent tout le monde. Il y en a qui sont là, au napalm, il les brûle. Les gens qui ont les raïmas, ils les rassemblent aussi. Et à côté de notre camp, nous, il y a, notre camp, il fait grand comme deux terrains de football, si tu veux. Et il y a un terrain également de deux terrains de football qui vont clôturer. Et ils vont mettre tous les gens, ils vont enfermer tous les gens vers le mois d'avril à peu près, avril 60. Ce qui fait qu'à partir de là, après. Au napalm, il tue les troupeaux de moutons, il tue tout ce qu'ils peuvent tuer. Même nous, quand on trouvait un âne, il fallait le tuer. Alors ça, tuer un homme, si ça avait été nécessaire, je l'aurais fait, je te le cache pas. Hein. S'il m'était trouvé en danger, trop, ou un copain, je crois que j'aurais tiré. Mais alors, tirer sur un âne, ça ne faut pas que tu comptes. Hein. Et là, c'était une joie pour eux. Moi, j'ai vu quelquefois, il vidait un char, il foutait 6, 7, 7 balles dans l'âne, il ne bougeait pas, la bestiole. Puis brusquement, il s'écroulait, quoi. Il fallait laisser rien de vivant pour que les fels, disons, puissent se ravitailler. Alors, privé d'armes, privé de nourriture, ça devient un calvaire pour eux, quoi. Alors, plus tard, parce que ça, c'est plus tard dans les livres, j'apprendrai qu'effectivement, il y a eu des accords secrets entre le FLN et l'État français, et que le FLN, comme les troupes de Boumediene, tous ces gens qui sont à l'extérieur, ne veulent surtout pas que le maquis puisse sortir du maquis des gens capables de prendre le pouvoir en Algérie. Donc on a intérêt à détruire le plus possible ces gens-là, quoi. Les affamés, par exemple, les ciné, là. Mais ça, je l'apprends plus tard, on ne l'apprend pas là-bas. Comme de hurler, tout ça, j'apprends plus tard que c'est... Aux arrêts là, c'est dit, c'est la guerre psychologique, c'est-à-dire les flics le font ici un peu. Quand un flic t'arrête, il dit bonjour monsieur, il te fait bonjour, et il te regarde, il ne fait pas un sourire ni rien, il n'avait pas votre ceinture, tout ça. Il t'attaque ton mental.
Ouais.
La preuve, ça, tu ressens une appréhension quand
bien
même.
Bien sûr, oui.
Bon. Et nous, on le fait plus maladroitement, si tu veux, et avec violence, avec cri. Alors, ça fait partie de ce genre de guerre. Disons des guérillas, quoi, tu vois, tu peux imaginer comme ça. Alors, pour te revenir début 60, là après, un des trucs assez graves, un soir, là, qui m'a choqué aussi, hein. J'imagine qu'il y en a qui ont vu beaucoup plus que moi, hein, t'inquiète pas, hein, moi je te raconte ce que j'ai vu, mais enfin, on part à 5 ou 6, je ne me rappelle pas. Et là-bas, pour ceux qui torturent, ce sont des lieutenants en principe ou sous-lieutenants, et ils sont en principe. Ce que moi j'ai vu, les quelques-uns que j'ai vus, c'est des pieds noirs. Hein. Parce que d'abord ils connaissaient l'Algérien, et puis ils sont pas tendres avec eux, hein, contrairement à ce qu'avait l'air de dire Camus. Hein. Moi, j'ai bien essayé de lire Camus, bon, mais j'ai mal compris tout ce qu'il a voulu expliquer, là, hein, parce que l'entente. Entre
C'est pas ce que tu as vu.
Non, c'est pas ce que j'ai vu. Alors ce soir-là, on part avec un radio, juste. Un radio qui écoute, mais qui n'a pas le droit de communiquer, il n'a pas le droit de parler, pas le droit de fumer, pas le droit de faire du bruit, et on part. Avec un type, bon, c'était pas un suspect, on va dire un suspect tout simplement, hein, un gars qui a été torturé, on a vite compris, c'est un gars qui a été torturé, qui a parlé. Et l'autre, lui, il a une carte, il lui montre la carte, il lui dit, alors, tu te reconnais, pauvre diable, lui, mais non. Comment non, non, tu veux que je te rappelle, moi, lui. Et non, t'as dit que. Alors, après, il nous le dit, il a dit qu'il y avait un rassemblement de plusieurs chefs FLN dans un ancien marabout, là, une espèce de caveau, là, je sais pas. Alors là, j'ai commencé à me dire, si on est cinq, qu'on tombe là-dessus,
On est mort.
chemin de retour. Incapable de revenir en arrière, m'échapper en courant, comme je ne veux pas. Si ça se tourne mal, quoi, il commençait à dire ce que c'est que c'est dingue. Alors, l'autre, il fait un signe quelconque, quoi, comme quoi on va danser dans cette direction. Alors, allez, on repart, pendant peut-être 1 km, j'en sais rien. puis il s'arrête. Et tu ne te trouves pas, non? T'en es sûr? Enfin, t'as là, il faut une rouste, quoi. À coup de poing, à coup de pied, tout ce que tu peux imaginer. Et nous, on ne bouge pas. Alors, lui, nous, on est quatre, si tu veux. Quatre soldats, l'officier, le lieutenant, là, le pied noir, et puis le pauvre malheureux, quoi. Et nous, on ne bouge pas, on regarde ça sans voir. Puis et après, il repart un peu plus loin, avec la carte, il cherche, il fait semblant de chercher, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Enfin, en réalité, sous la torture, il a dit n'importe quoi. Alors là, il le retabasse à outrance, l'autre, il tombe, il pisse partout. Et il dit, bon, mais je te donne une chance de sauver ta vie. Il prend une pierre plate, tu vois, rentre comme ça. Là. Mais comme ça, il pèse, si tu veux, un peu plus petit que toi. Et il lui met sur voilà, la...
Une belle pierre, quand même. Quoi.
Voilà. Et bon, un kilo, si tu veux, un kilo et demi. Et lui, tu vois, là. Tu la portes comme ça.
Au-dessus de ta tête.
Si elle touche ta tête, tant qu'elle ne touchera pas ta tête, tu sauves ta vie. Et il y avait 7 ou 8 km ou je ne sais pas combien à faire en chemin retour. Alors il commence à marcher. Puis l'autre, il touche, à mesure qu'il touche, un coup de pied dans le cul, l'autre tombe à plat ventre et tout. Allez, redresse-toi, je te donne une autre chance. Comme ça, jusqu'à ce que l'autre n'en puisse plus, puis il fout une balle dans la tête, quoi, tout simplement. Voilà. Si j'ajoute que quand on partait en embuscade, ça m'est arrivé 2-3 fois, qu'ils amènent des suspects toujours, puisque c'est pour eux des suspects, c'est tout. Hein. Et je ne suis pas sûr, moi, c'est pas, c'est tout simplement. Et...
On est toujours les suspects des uns ou les terroristes des autres.
Et là, ils demandent, au bout d'un moment, on va en embuscade, un camion nous amène, là, tout feu éteint, tu sais, c'est sinistre, il ne faut pas que les autres voient les phares. Il entend le son, il a fait sa faille. Et on demande des volontaires pour fusiller les gars. Alors, c'est pas un problème, il y en a toujours. Hein. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de. Et on m'aurait mis de force et j'aurais tiré. Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, il faut le tuer le plus vite possible. Il ne faut pas la peine de. Essayer de viser le cœur le plus vite possible. Ça arrive, ça. Moi, je l'ai vu à peu près trois fois, je n'ai pas la certitude, mais à peu près. Et les copains, ensuite. Les copains qui ont continué à crapailler me l'ont montré.
Quand vous ferez la guerre, ne comptez pas sur moi, messieurs les militaires, pour jouer aux soldats, pour tirer sur des hommes sans demander pourquoi, pour vous obéir comme vous l'espérez, je crois. Vous avez cru me prendre quand je vous ai suivi. Moi, je voulais apprendre à tenir un fusil. Je ne veux pas défendre n'importe quel drapeau. Je veux d'abord comprendre à qui j'offre ma peau. Quand vous ferez la guerre, vous la faites aujourd'hui. Messieurs les militaires, dans de lointains pays, vous semez la misère, la mort pour le profit de grands hommes d'affaires qui sont au chaud ici, qui gardent leurs mains blanches, qui ont de beaux habits, des habits du dimanche, même le mercredi. Êtes-vous donc si bête pour être si odieux? Non, simplement vous êtes du même monde que. Vous êtes de la race des maîtres et des seigneurs. Il n'y a pas de place pour vous dans mon cœur. Tout au long de l'histoire, vous avez exploité les miens pour votre gloire. L'auriez-vous oublié? Et vous voulez me faire croire que nous venons tous de la même terre? Je vous réponds que non. Quand vous ferez la guerre, je choisirai mon camp. J'irai avec mes frères, avec les pauvres gens. Voilà ce que je pense, messieurs les officiers, tortionnaires en puissance, valets des financiers. Nous n'avons pas le même intérêt, vous et moi. Et la couleur que j'aime, vous ne l'aimez pas. Juste encore une chose avant de vous quitter, une question que je pose en toute humilité. Pourrez-vous me comprendre si je vous remercie? Vous avez su m'apprendre à tenir un fusil.
Messieurs les militaires, Michel Buller, sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Vous écoutez Trou Noir et nous allons tout de suite retrouver Jean-Claude que nous avions interviewé chez lui.
Alors moi, pour m'en sortir, c'est pas compliqué. Ça tombe du ciel, pour ainsi dire. Dans le civil, je faisais du sport. Je faisais du vélo et puis je me défendais pas mal dans la région, là, ici. Et ils ont besoin de... Ils appellent ça un démonstrateur d'éducation physique. C'est-à-dire que tu as un officier qui fait les mouvements de close combat ou comme ça, de combat rapproché, et tu as un ou deux démonstrateurs qui font la démonstration du mouvement. Après, les soldats exécutent le mouvement. Tu vois ce que c'est pour... Et on m'appelle, le lieutenant m'appelle, il me dit, vous faites du sport dans le civil, là? Je dis, oui. Bon, est-ce que ça vous intéresserait? Ah, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Elle m'a dit, mais il faut une motive, faut être motivé. Alors, j'ai un pot unique, quoi. C'est que le président de la Fédération de cyclisme en Gironde, c'est un colonel. C'est le colonel Latière. Alors, je lui ai écrit, en lui disant que cette proposition, s'il peut me faire certifier que je suis un sportif correct, quoi. Je ne suis pas un champion, mais que je suis... Alors, il m'a fait cette lettre, avec ça, ça passe. Alors on m'envoie 2 mois à Alger pour faire ce stage. Mmh. J'en ai jamais autant chié de ma vie. C'est 1 heure de plateau qu'ils appellent gymnastique le matin, ça va. Et après, c'est les parcours du combattant. C'est les machines, les entraînements parachutistes, là. C'est les poulies là, sur les câbles. C'est la marche. L'après-midi, après, c'est le... C'est apprendre la théorie, quoi. Il faut apprendre tous les os, tous les muscles, tous ces trucs-là, quoi. Mmh. Le squelette, tout ça. Bon, là, ça nous repose parce qu'il fait chaud. Et vers 3h30, 4h, ça repart. Alors, lancement du poids, lancement du javelot, lancement de... nettoyer la piscine. On n'y a pas droit parce qu'elle est pour les pieds noirs, mais nous, on n'y a pas le droit. Il faut qu'on aille nettoyer la piscine, qu'on aille balayer, on n'arrête jamais. Je ne sais pas comment j'ai perdu des kilos. Ah, j'étais en forme après, quand c'est fini. Et j'arrive avec mon espèce de diplôme. Sauf que le lieutenant, il dit, bon, mais c'est bien gentil, tu le gardes, mais tu ne vas pas t'en servir parce que le close combat, on n'en a pas besoin ici. Tu apprends aux gens à se protéger à une attaque avec un couteau. Aussi, avec... Mmh. Ah, merde, je vais repartir au crapahut. Et puis non, il y a un menuisier à l'accompagner, ce menuisier-là, qui? Ils se sont aperçus que je suis charpentier. Il n'y a pas de menuisier, c'est un coup unique. Sur 100, il n'y avait pas d'autre menuisier. Donc on me prend pour faire la menuiserie. Et à partir de là, je monte la garde. Et je surveille, pendant que j'étais à Alger justement, ce fameux camp de regroupement a été fait. Alors ils sont c'est dans des barbelés, bien sûr. Hein. On leur porte à boire, on leur porte à manger. Enfin, pas nous, c'est un autre régiment quoi, qui s'occupe d'eux pour l'intendance. Mmh. Ils n'ont pas le droit de sortir, sauf d'aller faire quelques commissions au village, mais ça c'est les femmes un peu. Mmh. Alors quand elles sortent, il faut les fouiller. Parce que là, si je suis menuisier, je vais monter les tours de garde, par contre. Alors on est 4 à monter la garde, et il faut... parce qu'il y a eu dans certains villages, pas chez nous, mais dans certains villages, il y a des femmes qui ont transporté des grenades, qui ont été... remise à des hommes dans le village qui les ont lancés sur le marché, il y a eu des coups comme ça. Et il faut fouiller tout le monde. Alors je veux te dire que là, c'est pas la joie. Alors au début, tu le fais avec application, parce que tu dis, mince, je transporte une arme, mais tu peux pas les toucher, parce que elles te foutent des coups de pied. Ce qu'il faut surtout, pour nous, c'est savoir qu'il y a des hommes qui peuvent se déguiser en femmes. Mais déjà, quand elle pousse les cris, on voit très... Enfin, moi, tout au moins, les copains, on voit très vite si c'est une femme, donc on lui fout la paix de suite. Parce que autrement, tu la vois là-bas, t'as qu'un œil. Tu vois rien, un œil, c'est tout, comme ça.
Ah oui.
Voilà, c'est tout. Et puis, on les laisse passer, quoi. Et de plus en plus, on se déteint. Mais au début, on est mauvais, très mauvais avec eux. Et, sauf que, un jour, il y a des enfants, si tu veux, mais ça, c'est un petit peu plus tard, hein, je fais un peu plus vite. Entre-temps, si tu veux, là, je fais des menuiseries, alors je m'appliquais, je te signale. On a quitté nos tentes, puisqu'on a ramassé de l'argent à des collecteurs de fonds, et une partie de cet argent revient à la compagnie, ce qui permet à la compagnie de construire des bâtiments en parpaing. Mmh. Donc je participe à la charpente, à poser menuiserie, à poser des étagères, à tous ces trucs-là. Et je fais mon travail comme dans le civil, parce que je n'ai pas envie de perdre la place. Je m'applique comme tout. Et mes copains continuent à crapahuter, quoi. Et puis nous, on continue à les assister quand ils reviennent, à les aider au retour, quoi, pour ce qu'il y a à faire. Et ce camp de regroupement, il arrive qu'ils aient vu, aperçu que sous les barbelés, il y a quelqu'un qui passe, des gens passent, avec des petits bâtons, tu vois, ils relèvent les barbelés, et comme c'est du sable, ils creusent et ils passent pour venir manger ou pour venir se faire soigner ou tout ce que tu voudras. Alors quand ils voient ça, ils mettent des mines éclairantes partout.
D'accord.
Ils font un trajet autour, des mines éclairantes. C'est-à-dire si tu touches le fil, la mine éclairante monte en pleine nuit, et puis on a un phare, nous on allume le phare et
tac. Ouais.
Ah, les gamins, là-bas, ils ont 12-13 ans, hein. Ils n'ont pas de ballon, ils n'ont rien, mais ils se fabriquent avec un truc de gueule, ils se fabriquent quelque chose, ils s'amusent, et à la tombée de la nuit, ils s'arrangent à jeter ça dans le barbelé. Et après, ils essaient d'aller le chercher, et ils se piquent. Hein. En allant le chercher, ils tirent sur la ficelle, ce qui fait que les mines éclairantes partent, et la nuit peut passer. Alors nous, on nous donne ordre de tirer à vue. Oh, il ne dit pas ça, pas question, quoi, pas possible. Alors personne ne tire quand même là. Mmh. Alors il y a un juteux, un jour, ça va durer 3-4 jours l'histoire. Parce que le matin, ils reviennent mettre les mines éclairantes, les autres, bien sûr. Le génie qui fait ça. Et là, il y a un adjudant, lui, il prend le fusil, il tue le drôle. Il nous laisse là, la garde, nous, il se barre, lui. Après, t'as les femmes qui sortent et qui se foutent à hurler, là. T'as un gars, là, un vieux. Ancien combattant, je ne sais pas, de la guerre de 14, quoi. Alors il a une médaille, je ne sais pas laquelle, c'est la médaille croix de guerre, je ne sais pas ce que c'est. Quand il passe, il faut qu'on lui fasse un salut militaire. Et il arrive, il commence à nous traiter de tous les noms possibles imaginables. Et ce n'est pas nous, c'est l'autre. Lui, il est venu, il a tiré, il est parti. Alors il y a le chef de poste bigophone là-bas en haut, parce que les femmes s'attroupent. On a des chevaux de frise, alors on ferme les chevaux de frise, mais ça ne suffit pas, ils peuvent enjamber. Et puis un appel, on dit attention, je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous on est quatre et on ne va pas tirer dans la foule, et qu'est-ce qu'on fait? Et ils envoient un char. Alors tu as le char qui se met face aux gens, la mitrailleuse, le canon, tout de toute façon. Et bon, ça se calme parce qu'ils ont peur. Alors, ils réclament le corps de l'enfant. Il y a une négociation. Et ils disent au moins, laissez-nous prendre le corps. Mmh. Il y a une ambulance, tant que la négociation se fait, il y a une ambulance qui arrive. Ils attrapent, ils écrasent les barbelés, les types, là. Ils coupent, ils attrapent le gosse et ils le jettent à l'ambulance. Mais comme un tas de gueules, tu vois.
Ouais, ouais.
Alors là, c'est pire, hein. Prendre le corps, c'était. Alors, il a fallu, face au char, évidemment, ils n'ont pas pu avancer. Enfin, ça a été un moment très stressant, très mauvais, très tout ce que tu voudras. Quoi. Alors, en fin de compte, l'adjudant qui a tiré comme punition, parce que c'est quand même ça se passe moitié 60, on devient plus civilisé un peu. Parce que je pense que les ordres du gouvernement ont été un peu d'être plus social, d'être plus... Le moment qu'ils sont dans les cadres de regroupement, maintenant, il y a le médecin qui va aller voir, ou une femme, les assistantes sociales, ils vont. Et il faut être plus gentil. Alors, il est muté disciplinaire, soi-disant, comme chef de poste, dans un poste, quoi, il va. Puis c'est tout. Puis ça s'échelonne comme ça, quoi. Alors, c'est une routine, sauf qu'il n'y a pratiquement plus d'accrochage. Quand il y a un accrochage, c'est en principe une seule personne qui tire, et à une grande distance. Donc, il n'y a pas de dégâts. Puis la Légion, quelquefois, passe 15 jours et fait des opérations de ratissage. Il y a les avions de reconnaissance qui recherchent des traces, tout ça, depuis en haut, ce qui fait que le commando, il sort, mais plutôt par exercice que par mission, quoi, surtout, pour s'entretenir. Par rapport à la population, c'est plus calme, c'est vrai, on le voit, mais on n'est pas non plus... parce que tu sais, moi, depuis le poste depuis le poste de garde, quand je regarde les gens qui sont dans le camp, c'est les bidons d'eau qu'on leur porte, c'est des citernes d'eau en plein soleil, ils sont en plein soleil, hein. C'est pas de l'eau fraîche, faut ma confiance. Hein. Tout est comme ça. Puis après, ça arrive au push d'Alger, là. Des généraux, là, début 61. Et on est maintenu, là, on avait remis nos pactages, nos armes, nous, ma classe, moi. Puis on est maintenu au cas où. Et on reste un mois de plus ou deux mois de plus. Puis après, c'est la quille. Alors, la quille, c'est Alger, c'est le bateau. C'est jeter les... On nous donne une commémorative en jetant l'eau. Là, on est plusieurs, parce que pas de mon régiment. Mais comme on a une classe tous les deux mois, quand on est libéré par deux ou trois, ou cinq, par régiment.
Ouais.
Mais il y en a d'autres militaires là-bas sur le bateau. Et puis, il n'est pas détendu, ceux-là. Te jettent leur bazar, tout leur... pas lié les militaires peut-être, mais le reste, ça va. Les affaires du paquetage, tout. Et leur joie, ils la manifestent. Il y a de la haine, quand même.
Ouais, ouais.
Et tu pars quand, là, vers l'été 61, c'est ça?
Je pars l'été 61. C'est j'arrive ça. En juillet 61, ici.
D'accord.
Alors, dans un état second, si tu veux, je ne parle pas. Le soir, je me couche, je suis... couvert de sueur, ma soeur vient me voir quelquefois, je suis rempli de sueur, les draps tout trempent, tout, c'est des réactions quoi, mais je sais pas quoi. Et j'ai rien à dire, je peux pas. Alors je reprends un peu le sport petit à petit, et puis après je reprends le métier. Puis j'oublie, sauf jusqu'à peu près à 40 ans quoi, et à 40 ans ça revient. Et là, si je m'en veux, c'est de ne pas avoir réagi par moment, j'aurais pu. Si j'avais fait ça une fois, simplement une fois, même que je ne le répéterais pas, que j'en tirerais pas honneur, mais pour moi, personnellement, ça m'aurait fait plaisir de pouvoir dire à un type, te conduis comme un porc, tu arrêtes tes conneries, quoi. Et c'est...